Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le 20 février, puis pour débuter, on commence là sans générique, sans le décompte que vous avez actuellement, mais on va vous présenter le nouveau générique. Donc, on vous revient juste après avec notre invité, Christian Alain. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'était le nouveau générique, vous avez eu la primeur. C'est une petite réalisation que j'ai fait en fin de semaine. Donc, j'espère que vous allez apprécier.
C'est magnifique, je te félicite. Franchement, ça fait très professionnel, j'adore ça.
Bonsoir Lolita.
Bonsoir.
Bonsoir Christian, ça va bien?
Oui, très bien, vous aussi?
Oui, bien aussi. Ah, il y a Joseph qui dit « Très beau générique, il y a déjà des personnes qui nous écoutent ». Puis, juste avant de commencer, je vous rappelle qu'à partir de jeudi, donc on va être le 22 février jusqu'au 25, c'est le Salon du livre de l'Outaouais qui va se passer au Palais des congrès de Gatineau. Je serai là en séance de signature du jeudi au dimanche, de l'ouverture à la fermeture tous les jours. Ariane Arpin aussi. Il va y avoir aussi Stéphane Baillargeon qui va être là. Il y a aussi Andréane Désien-Lupé qui va être là aussi. Et Marisol Michaud qui va être là aussi pendant les 4 jours du salon à des horaires différents. Vous irez voir sur la page de Bidivo. Puis les horaires vont être mis. Sinon, venez nous voir au salon. Ça va nous faire plaisir de signer les livres et de vous rencontrer, de vous jaser, de prendre des petites photos. Donc, ce que vous écoutez, c'est diffusé sur les pages Facebook, LinkedIn, YouTube, même Twitch. Et demain, ça va se retrouver en balado. Donc, il y a du Apple Podcast, Google Podcast. Il y a du Hayat Radio qui appartient à Bell. Il y a, aide-moi Lolita, j'en
ai oublié. C'est pas mal ça, t'as pas mal tout dit.
Oui, en tout, il y en a 8 sur Balado et sur Unicité.
Unicité, il manquait lui, c'est ça. Au total, ça fait une douzaine de plateformes pour pouvoir nous écouter en rediffusion.
Oui, puis on est surveillé par quand même la directrice générale, Annabelle, qui nous dit...
Bonjour, Annabelle!
Bonjour, madame la directrice générale. Mes hommages. Donc, il faut toujours être poli avec la directrice générale.
Toujours, toujours.
Toujours, toujours.
Elle doit t'écraser de rire de ton commentaire.
Bon. Elle est écrasée de rire. Puis, Christian, pour débuter, est-ce que tu peux nous parler de toi? Qui est Christian Alain?
Oui, effectivement. Tout d'abord, écoutez, Jean-Luc et Lolita, je veux vous remercier de l'invitation. C'est très apprécié. Puis, très content d'être ici ce soir. En fait, je m'appelle Christian Alain, j'ai 52 ans, je suis un père de famille. J'ai un garçon de 15 ans et ma fille vient d'avoir 18 ans. Et d'ailleurs, elle a eu sa première voiture cet été. Toute une aventure d'y apprendre à conduire. À part ça, c'est ça, ça fait 25 ans que je suis éducateur physique au primaire, après dans la commission scolaire de Sherbrooke, de la région d'où je suis présentement. Je suis aussi coach en PNL, en programmation neurolinguistique depuis 2018. Et j'ai aussi une entreprise d'arts martiaux, une bâtisse commerciale à Sherbrooke. Je suis dans le fond ce qu'on appelle un Shi'an, c'est un titre qui est maître instructeur, sixième dan en karaté et en jujitsu, c'est une de mes passions.
Donc, il faut s'asseoir à côté de toi dans un salon si on a peur.
Ben, pas nécessairement, je suis plutôt passif, mais c'est sûr que je suis équipé pour me défendre, comme on dit. Et c'est ça, en gros, je suis un passionné de tout ce qui est croissance personnelle. En fait, je ne lis que ça. Les livres que je lis rarement des romans. Tout ce que je vois lire, c'est des livres de croissance personnelle. Et ce que j'aime beaucoup, c'est assister à des conférences, bien sûr. Et c'est ça, rencontrer des auteurs, rencontrer des gens comme vous, c'est toujours très, très satisfaisant et très, très plaisant aussi.
Fait que, ton premier livre, tu l'as écrit, c'est quoi qui t'a donné le goût de l'écrire, ton premier livre?
Mais en fait, j'avais fait une retraite avec François Lemay, une retraite, je pense, c'était une retraite de 4 jours, c'était une retraite comme en silence. Et avant ça, j'avais rencontré Marc Gervais dans une conférence intitulée « Le lâcher prise » à Sherbrooke. Et lui, il m'a mis en jasant avec, il me dit, Christian, il dit, pendant la pause, parce qu'il faisait une pause dans sa conférence, il me dit, j'ai une formation sur devenir auteur. Il me dit, tu as déjà pensé à écrire un livre. Puis moi, je ne connaissais pas pantoute ce gars-là, mais le contact s'est fait tout de suite. Puis quand je suis arrivé le soir chez nous, j'ai commencé à réfléchir à ça. Puis en dedans d'un mois, j'ai écrit 30 pages. Ça a sorti comme ça. J'ai été comme inspiré. Puis c'est tout aussi avec la retraite de la fille avec François Lemay, qui était beaucoup axé sur rallumer la flamme en soi, puis qu'est-ce qu'on veut dans la vie, puis qu'est-ce que tu as le goût de faire. Puis moi, le goût d'aider les gens, ça a toujours été très fort chez moi. Fait que tout ça mis ensemble, ça a fait que ça a comme déboulé, puis en l'espace de 2 mois, j'ai complété le livre. Puis Marc Gervais a accepté de faire ma préface, puis pourtant, c'est un, tu sais, je ne connaissais presque pas. Mais en tout cas, ça pour dire que je suis devenu un ami aussi.
C'est un beau privilège.
Ouais, exact. Oui, exact. Tu sais, Marc, c'est quelqu'un de très franc et direct, t'aimes ou t'aimes pas. Moi, je le prends toujours au second degré, dans le sens que tu sais, je vais écouter les messages qu'il a livrés, non pas des fois la façon dont il va le dire, parce que pour certains, ça peut être, ça porte peut-être un peu moins. Mais tout ça pour dire que c'est ça. Il m'a aidé beaucoup là, à faire ressortir ce que je voulais un peu à ce niveau-là. Puis, tu sais, c'est pas quelque chose que j'avais pensé d'écrire un livre là,
des années. Ça date pas de ton enfance, c'est ça. C'est arrivé soudain.
Oui, exactement, tu sais, puis c'est, ça a comme le, je sais pas, ça a réveillé quelque chose en moi, puis ça a sorti, tu sais, ça a sorti comme ça. Le titre aussi, « Vous méritez ce qui est meilleur dans la vie », c'est simplement…
Veux-tu nous le montrer?
Oui, 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 juste comme ça. Et voilà.
Puis, il y a Marie-Sophe Fortin qui nous écoute. Elle demande si tu connais Dr. Joe Dispenza.
Ça me dit de quoi, mais il faudrait qu'elle m'en parle un petit peu.
Donc, Marie, si tu veux en dire plus, puis je pense qu'Annabelle aussi, elle le connaît.
Oui.
Donc, ton livre, c'est « Vous méritez ce qu'il y a de meilleur dans la vie ». Soyez le meilleur de vous-même. Et tu as une préface, d'ailleurs, de Marc Gervais, c'est bien ça?
Oui.
Qui t'a fait. Et puis, tu parles de l'amour de soi.
Oui.
Et tu dis comme quoi que dans l'amour de soi, c'est principalement… la fierté de soi qui est un sentiment très puissant.
Oui.
Est-ce que tu crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont trouvé cet amour de soi?
Non, pas tant que ça, je dirais. C'est quelque chose de... Non, c'est quelque chose de développé. Souvent, on va le voir aussi chez les gens qui vont avoir tendance à se saboter ou, par exemple, vont avoir tendance à se dénigrer. On va souvent remarquer là, un problème d'amour de soi, surtout dans des situations où ils vivent un échec. Que ce soit une relation amoureuse ou que ce soit dans un contexte de travail, s'ils ont un échec, ils vont avoir tendance à se remettre en question comme personne et non pas nécessairement la situation, le contexte qui est arrivé. Puis ce que je parle, dans le fond, tout part beaucoup de l'amour de soi. Si tu ne t'aimes pas toi-même, comment tu peux te faire plaisir puis attirer des belles choses dans ta vie? Fait que tout part de là. C'est beau croire en soi, mais tu sais, à un moment donné, tu vas mériter aussi ce que tu penses que tu mérites.
On donc, se juge tous très sévèrement. Hein?
Exactement. Tu sais, fait que c'est... Ce qui est dur, c'est un peu ça, c'est que des fois, il y en a qui vont, tu sais, ils veulent beaucoup, mais ils vont saboter de l'autre côté, parce que justement, ils pensent qu'ils ne le méritent pas vraiment.
Oui, le mérite.
C'est un peu ça, puis la fierté de soi, ben c'est ça, tu sais, des fois, c'est dans des actions très simples, tu sais, à un moment donné, je ne sais pas si j'en parle dans le livre, mais tu sais, comme juste compléter une tâche, ça peut être de faire le gazon, puis de faire la tâche au complet, puis après ça, juste d'avoir terminé, puis prendre le temps de regarder. Tu sais, ce que tu viens de faire, puis d'être fier d'avoir complété une tâche, tu sais, qui peut-être qui te tentait moins un peu au départ, mais qu'au bout du compte, tu sais, tu l'as fait, puis tu es satisfait. Puis dans le quotidien, il y en a tellement des tâches que, tu sais, sont plates, là. Tu sais, si on parle de lavage, peu importe, le ramassage, toutes les petites tâches au quotidien qui peuvent devenir très lourdes. Par contre, si tu vois ça comme genre de petite réussite, ce que tu viens de faire, ça peut changer complètement ta dynamique, puis de rendre ça plus agréable.
Ta vue vers ça, va changer complètement, là, ta vision, là.
Oui, exactement. Tu sais, fait que c'est un peu ça. Mais l'amour de soi, c'est un élément, je dirais pas que c'est un fléau, mais dans le succès de beaucoup de gens, c'est le principal moteur, c'est ça. C'est, si tu t'aimes, tu es capable de faire beaucoup de choses pour toi, mais si tu t'aimes pas, ça va revenir, puis il va toujours avoir un imprévu ou quelque chose qui fait que tu seras pas capable d'atteindre là, tes objectifs.
On a deux commentaires. Le premier d'Annabelle Boyer qui dit que Joe Dispenza est docteur en neurosciences et en chiropratique.
OK.
Et elle dit aussi, Christian a tout à fait raison, les gens pensent qu'il manque de confiance en soi alors que le problème réel est l'amour de soi. Ton livre est un petit bijou.
Ah, merci Annabelle.
C'est un beau compliment venant d'Annabelle, ça.
Ouais.
Est-ce que tu dis, là, parce que j'ai lu une de tes phrases, tu disais que pour trouver l'amour de soi, il faut d'abord trouver l'équilibre en soi.
Ouais, exact.
Tu peux-tu développer un petit peu?
Bien, c'est que premièrement, c'est bien beau de dire « faut que tu t'aimes », mais qu'est-ce que tu dois faire pour en arriver à t'aimer? Fait que tout d'abord, peut-être, c'est de regarder des choses que toi te rendent heureux. Ça, c'est sûr en partant. Si tu fais des choses qui te rendent heureux, nécessairement, tu vas être dans un bonheur contagieux. Puis à ce moment-là, bien, ça va être plus facile d'être en équilibre. Tu sais, chercher à faire des activités pour être en équilibre, c'est aller vers l'extérieur pour être bien à l'intérieur de soi. Fait que si tu vas plutôt faire le contraire, tu vas vraiment penser à ce que tu veux faire et ce que tu aimes faire, ça va te créer un bel équilibre. Je donne un exemple. Mettons quelqu'un qui veut aller au gym pour se mettre en forme. Mais s'il n'aime pas aller au gym, c'est sûr que ça ne marchera pas.
Non, il ne sera jamais heureux.
L'échec, c'est sûr qu'il va arriver, c'est certain. Fait que ça part un peu l'équilibre, c'est beaucoup l'équilibre de soi, de savoir qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui te fait plaisir, qu'est-ce que tu as envie de faire. Puis à ce moment-là, quand tu es là-dedans, tu peux atteindre des objectifs. Mais si tu n'es pas là-dedans et que tu es juste dans des affaires extérieures, ben, tu vas peut-être réussir, mais ça va être beaucoup plus difficile parce que ça ne vient pas de ton intérieur. Ce n'est pas intrinsèque, c'est plutôt extrinsèque.
Mais tu dois le voir quotidiennement avec ton entreprise de karaté. Il y a des gens qui essayent le karaté, mais que ça ne leur dit pas peut-être.
Ouais, ben, l'avantage qu'on a souvent, moi dans mon couple, vu que j'ai un autre travail, je peux me permettre de poser vraiment la question aux gens, qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu viens chercher?
Ouais.
Fait que s'il dit « Ah, je m'inscris parce que ma mère veut que je m'inscrive », ben ça ne marchera pas.
Non.
Tu sais, je donne un exemple. À un moment donné, il y a un monsieur qui est arrivé, tu sais, puis son garçon, il était quand même assez efféminé. Puis le monsieur, lui, c'était les grosses bottes Kodiak, puis la chemise de bûcheron, puis tu sais, le langage très coloré. Puis lui, il dit « Je vais inscrire mon gars pour 5 ans, 7, je vais en faire un homme. » Ben là, j'ai dit « Gars, je vais être franc avec toi, je pense pas que ça fonctionne. » J'ai dit « Premièrement, on va commencer par une session ou une année, puis après ça, on verra ce que ton garçon y est rendu, mais tu peux pas, tu sais, je veux dire, ça vient pas de lui.
Oui, imposer ça, ses choix à lui, ça marche pas, là.
Exactement. Fait que, tu sais, le garçon, il en a fait un bout. Il est venu chercher ce qu'il avait à chercher. Puis, tu sais, il s'est rendu, peut-être, il a fait 2-3 ceintures. Puis, après, il est parti. Puis, ça a été bien correct. Tu sais, il est venu chercher. Finalement, il s'est découvert quelque chose qu'il est venu chercher, qui n'était pas nécessairement ce que son père voulait. Mais au bout du compte, tu sais, il est allé avec lui, qu'est-ce qu'il voulait
de son père. Au début, il l'a fait pour son père. Il a continué pour lui. Puis, après ça, quand il en a plus eu besoin, il s'est reviré de bord. C'est ça, il fallait qu'il fasse.
Ouais, puis son père, puis tu sais, le petit gars en plus, il est sorti du placard après plusieurs années. Tu sais, moi, je m'en doutais un peu. Mais tu sais, son père, ou que, tu sais, qui voulait être aussi viril, puis finalement, son enfant, il était homosexuel. Mais tu sais, j'ai trouvé ça bien parce que ça a permis de rapprocher aussi avec son père, de faire comprendre que, tu sais, garde dans la vie, ça marche pas.
On n'est pas tous pareils.
Non, exactement. Fait que c'est un peu ça qui est arrivé. Mais tu sais, les arts martiaux, c'est moi ce que je trouve le plus. Puis là, je réponds peut-être plus à autre chose à ta question, mais. Tu sais, je donne un exemple. Souvent, le monde attend d'être motivé pour faire quelque chose. Mais si tu attends d'être motivé, tu ne seras pas. C'est l'action qui amène la motivation.
Tellement.
Ben, justement, dans ton livre, tu parles justement qu'il faut arrêter de parler et qu'il faut passer à l'action.
Non, exactement. Le monde parle trop. Il n'y a juste pas assez. Puis, tu sais, des fois, c'est bon de. Tu sais, comme les enfants, ce qui est le fun, c'est que les parents payent pour un cours de discipline. Fait que, tu sais, des fois, un bon Québécois, tu sais, tais-toi puis exécute.
Mm.
En vie, c'est un peu ça. Des fois, si tu veux avoir quelque chose, arrête de penser, arrête de parler puis fais ce que tu as à faire, point, puis ça va avancer.
Faut que tes bottines suivent tes babines, comme dit l'expression.
C'est ça exactement. Mais, tu sais, c'est l'action qui amène la motivation. Puis combien j'ai de personnes, moi, qui arrêtent après un certain temps, disant, oh, je suis plus motivé, puis moins il est motivé, moins il vient au cours.
Mm.
Viens, moins tu bouges, moins tu as le goût.
C'est sûr.
En vie, on travaille tous les jours, c'est pas toujours plaisant.
Faut se botter le derrière, des fois.
Ça, exactement.
Hey, peux-tu me dire, c'est quoi qu'un kinanthropologue?
Kinanthropologue, c'est une maîtrise en kinanthropologie, c'est l'étude de l'homme en mouvement.
OK.
Ça répond.
Ben, j'ai vu ça passer sur tes affaires, j'avais jamais vu ce mot-là. J'ai pas été là, j'ai jamais vu que tu me l'expliques.
Oui, ben c'est ça, j'ai une maîtrise en kinanthropologie, c'est l'étude de l'homme en mouvement, c'est une maîtrise supérieure en éducation physique.
OK. Tu connaissais-tu ce mot-là, Jean-Luc, toi?
Pas du tout. On va aller se coucher, beaucoup plus
intelligent.
Ça intrigue beaucoup le monde. Des fois, quand je faisais des salons, tout ça, et ça arrivait souvent que quand je voyais le monde kinanthropologue, je me faisais poser beaucoup la question. Mais c'est ça, c'est une maîtrise en kinanthropologie.
OK.
Écoute, ça se met très bien dans un CV.
Ça paraît bien.
Dans ton livre, tu parles aussi comme quoi que les blessures sont mises en 5 groupes. Ouais. Et la première, tu dis que c'est la trahison.
Ouais.
Puis, pour se libérer, tu dis qu'il faut prendre conscience de sa blessure, entre autres, mais qu'il faut apprendre à ne plus mettre de colère lorsque les choses se déroulent, pas comme on l'entend.
Oui, exact.
Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu?
C'est sûr que la mieux placée, c'est Lise Bourbeau pour expliquer ça, là, les 5 blessures et la façon de se guérir, mais c'est sûr que la colère, c'est vraiment une des pires émotions que tu peux avoir parce que les dommages sont très intenses, autant au niveau physique, parce que même si tu as une montée d'adrénaline, après ça, souvent, tu vas avoir une baisse d'énergie incroyable. Là. Mais écoute, je ne pourrais pas élaborer beaucoup là-dessus parce que je considère que je ne suis pas expert à ce niveau-là. Puis je ne te le cacherai pas, cette section-là, je devrais la relire pour bien te l'expliquer. Mais en gros, c'est ça. Les blessures, ces 5 blessures-là, ça revient encore sur ce qui nous fait avancer dans la vie. Puis ce qui va
avec le rejet et tout ça.
Oui, c'est ça, exactement. C'est ce qui va nous faire bloquer beaucoup, qui va nous empêcher d'avancer. Je l'ai noté aussi dans le livre parce que je trouvais ça important que, justement, si quelqu'un veut faire vraiment un travail sur soi complet, bien, tu sais, c'est un peu comme le langage, l'amour aussi. Tu vas apprendre à connaître quelqu'un, mais c'est important de bien connaître aussi qui est en face de toi. Mais dans notre cas personnel, ben c'est ce que tu te connais vraiment, parce que tu es capable de dire, comme moi, exemple, c'est l'injustice, là, c'est la blessure qui vient me chercher le plus.
Ouais.
Ça a pris du temps avant que je comprenne pourquoi que quand j'étais jeune à l'école, s'il y en a un qui faisait mal à un autre, je trouvais ça injuste, j'allais le défendre, tout ça, mais c'était vraiment l'injustice qui me faisait aller de l'avant. Avec le temps, j'ai compris que peut-être dans une vie antérieure ou peu importe, c'est quelque chose que moi, il m'est arrivé. Mais dans mon cas, moi, c'est vraiment l'injustice, là, que ça, faut vraiment que je travaille. Quand je vois de quoi qui n'est pas juste ou si quelqu'un me reproche quelque chose que je n'ai pas fait, je vais devoir respirer un peu parce que les émotions peuvent monter assez rapidement. Fait que c'est un peu ça, c'est d'identifier chacun c'est quoi sa blessure. Des fois, on en a plus qu'une, mais en général, il y en a une qui est un peu plus prédominante que les autres.
C'est ça que tu appelles l'interrupteur magique, la gestion des émotions? C'est ça que tu appelles un petit peu ça?
Oui, mais c'est aussi la gestion des émotions. Moi, j'aspire à maîtriser mes émotions, mais c'est pas toujours facile parce qu'on dirait qu'il faudrait vivre dans une cabane dans le bois et pas rencontrer de personne pour avoir d'émotions.
C'est un peu difficile, hein?
Oui. Aussitôt qu'on est en contact avec des humains, puis on va remarquer aussi qu'on rencontre souvent des personnes qui sont là pour peser sur le bouton, pour nous faire réagir. Puis quand tu commences à penser que tu maîtrises tes émotions, on dirait que la vie t'envoie un test pour voir vraiment si tu es si bon que ça. On va t'envoyer une situation qu'on va voir si tu es capable de maîtriser. Puis des fois, on est surpris qu'avec les années, comment est-ce que, même si tu travailles sur toi, comment tu te rends compte que des fois, tu peux te faire déstabiliser dans des situations que tu ne t'attendais pas. Pantoute, ça peut être que tu t'envoies à l'épicerie, il y a quelqu'un qui se défoule sur toi pour X raisons, ou peu importe, au volant, ou... des fois, dans des contextes, puis c'est quand même assez surprenant. Je donne un exemple. Quand j'avais été pour aller en retraite avec François Lemay, j'ai vécu un cas de rage au volant avant d'arriver à la retraite. Puis, j'ai trouvé ça vraiment spécial. Là. Pourtant, je n'avais pas fait grand-chose. J'étais arrivé à une lumière, j'avais dépassé, puis il y en a un qui est arrivé, puis deux bras dans les airs. Puis, en dedans de moi, ça disait hey, tu sais, je t'ai équipé pour sortir de l'auto, puis maîtriser vraiment la personne. Mm-hmm. Mais au bout du compte, ça me donne quoi?
Rien.
Mais en dedans de moi, ça travaillait. Puis, tu sais, je me rappelle, il avait envie de baisser à côté, puis il criait. Moi, j'avais envie de baisser, je l'écoutais. Tu sais. Puis là, dans ma tête, je me disais, OK, là, je vais rester calme, ça n'a comme pas de bon sens. Mais l'effet surprise était total. Après ça, je me suis dit, pourquoi je vis ça? Puis je m'en allais 4 jours en silence après. Fait que j'ai eu le temps de réfléchir pas mal pendant
que commencé.
Fait que j'ai eu le temps de. Je disais, ouais, ça, le retour sur soi se fait assez bien.
Mm-hmm.
J'ai eu le temps de réfléchir à tout ça, puis de dire, tu sais, finalement, c'était peut-être juste un test pour voir, tu sais, regarde, t'es-tu sans maîtrise de ce que tu fais? Puis, tu sais, dans le fond, ça avait ni queue ni tête, cette affaire-là. C'était une histoire. Puis, ça, en réalité, je dis, le gars, il est reparti. Je sais pas, il a peut-être vécu une frustration, il a lâché ça, il a tout déversé, puis il est reparti. Puis, tu sais,
ben, toi, prenez un punching bag, c'était toi.
Ben, c'est ça. Tu prends ça comment, finalement? Avec le temps, tu te rends compte, tu te dis, gars, ça m'appartient pas, j'y laisse. Mais sur le coup, tu peux réagir quand même pas mal. Tu sais, si tu te laisses aller. Hein.
Il y a un jour, pour les personnes qui nous écoutent, puis vous êtes nombreux ce soir, on est aux alentours de plus d'une vingtaine à être que vous nous écoutez en direct, 27 même. Vous pouvez directement poser vos questions à Christian Alain, qui est auteur du livre dont on parle ce soir. Puis dans ton livre, justement, on peut écrire. C'est parce que tu as laissé des sections où tu poses des questions au lecteur. Puis si jamais on va dans l'amour de soi, il y a 4 questions et on peut prendre son crayon, son stylo, puis écrire directement dans le livre. Donc, ce n'est pas sacrilège d'écrire dans le livre. Avec toi, on peut écrire dans le livre.
Ben, à la fin de chaque chapitre, il y a toujours une petite fiche de réflexion. Puis le problème souvent de ce que je trouve, c'est que de plus en plus, le monde suit beaucoup, beaucoup de formations. Ils ont des connaissances, beaucoup de connaissances. Mais c'est comme, je peux dire, c'est des mangeurs de connaissances qui n'intègrent pas. Puis le livre, il était fait pour être lu, peu importe le chapitre. Si tu trouves le chapitre qui t'interpelle, tu le fais. Tu le lis, puis après ça, tu réponds aux questions. Le problème, c'est que la plupart du monde vont le lire en 2-3 jours, puis dire « Ah, il est bon ton livre, puis il passe à autre chose. » Mais un but d'un livre de croissance personnelle, c'est d'intégrer ce qu'on vient de lire.
D'intégrer puis de l'appliquer?
Exactement. Puis ça, le fait d'écrire, ça t'oblige à prendre un temps puis de te questionner. Sinon, tu passes au chapitre suivant, puis tu dis « Ah, c'est beau, c'est des beaux textes, des belles paroles. » Mais le but, c'est pour toi que tu fais ça. Tu sais, ce livre-là, quand je l'ai écrit, c'est un livre que je pouvais... J'ai dit, s'il n'était pas publié, je pouvais l'utiliser sur le coin de mon bureau ou de ma table de chevet, puis l'utiliser pour moi.
Ouais.
Mon but, c'était soit qu'il va être publié dans une maison d'édition pour qu'il soit à grand public, ou je le garde pour moi. Mais au départ, c'était un outil pour soi. Mais pour ça, c'est qu'il faut prendre le temps de... Puis moi, ça revient encore à, tu sais, l'entraînement, les projets...
Ouais.
Est-ce qu'ils sont prêts à mettre les efforts pour et de mettre le temps pour? Des fois, je trouve que le livre, pour certaines personnes, c'était trop demandant. Il y en a beaucoup qui ne sont pas prêts à ça encore. C'est ce que je trouve.
L'effort n'était pas là, là.
Non, c'est ça, exactement. Je trouve qu'il y a beaucoup de personnes... Tu sais, j'ai eu des bons commentaires, tout, mais tu sais, quand j'entendais « Ah, je l'ai tellement aimé, je l'ai lu en 3-4 jours, c'était fini. » Je dis « Ah, mais il est passé à côté.
» Mais toi, quand tu as écrit ce livre-là, Christian, là, est-ce que tu as étonné tes proches par rapport à la personnalité, à tes buts, à ce que tu es, ou pas du tout, ils ne sont pas surpris que tu aies sorti un livre?
Ben, ma blonde, non, parce qu'elle, elle me connaît très bien. Les personnes, je suis vraiment proche aussi, mais exemple, des collègues de travail à l'école, comme les enseignants, tu sais, il y en a qui disent ah, « je ne pensais pas que tu étais comme ça », puis tu t'occupes, mais tu sais, en même temps, c'est le fun, puis c'est pas le fun de recevoir ça, parce que tu te dis, écoute donc, je me faisais juger comme une personne, quoi, qui n'était pas capable de réfléchir, tu sais. Non, mais c'est vrai pareil, tu sais, c'est au bout du compte, tu sais, je me dis, ou tu sais, tu peux le prendre, ah, ben c'est le fun, elle trouve que c'est bien, mais dans l'autre sens, je me dis, tu sais, c'est comme un message à deux tranchants.
À deux tranchants, c'est là qu'il faut que tu te parles.
Eh oui, c'est là que tu travailles.
On a une question, et non la moindre, Madame Belboyer, qui demande à Christian, quelle expérience t'as fait le plus cheminer ou a été la plus grande source d'apprentissage?
Ben, moi, j'étais un ancien athlète, dans le fond. Mon rêve, c'était d'aller aux Jeux olympiques en athlétisme. J'ai été champion canadien. En tout cas, l'ego, là, je l'ai rempli en masse. Tout ce qui est trophée, médaille, puis ça, c'est lettre, ça, je l'ai fait en masse. Mais ce qui m'a le plus aidé dans ma vie, c'est les blessures. Les blessures physiques, puis de tomber, me relever, puis recommencer, puis continuer. Ça, c'est probablement ce qui m'a aidé le plus, puis c'est ce qui m'a formé aussi le plus. C'est les échecs et de recommencer, puis de réussir à aller de l'avant. Et au bout du compte, tu sais, se construire aussi une personnalité, se construire aussi une carapace face à des événements. C'est probablement ça, c'est ces situations-là. Puis après ça, c'est facile de transférer. J'arrive au travail, il arrive un conflit, il arrive des problèmes. Je sais que je vais passer au travers. Tu sais, c'est juste une question de vision, de comment voir ça. Puis de comment
de recul et d'attitude.
Exactement, c'est ça. Fait que ça revient beaucoup à comment j'interprète, comment je prends ça, qu'est-ce que je suis prêt à faire, puis tu sais, qu'est-ce que je suis prêt à changer en moi aussi pour justement accepter plus ces situations-là. Tu sais, parce que dans le fond, chaque émotion ou chaque situation qui m'arrive m'appartient. Fait que ouais. Si ça m'appartient, c'est moi qui dois travailler là-dessus. Si Jean-Luc, il me dit quelque chose, ça me dérange, c'est pas de la faute de Jean-Luc. C'est moi qui l'ai interprété de cette façon-là. Puis
ça dépend comment tu le reçois.
Exactement, c'est ça. Puis si Jean-Luc, mettons, il me déverse un char de toutes sortes d'affaires, ben à ce moment-là, j'ai juste à dire que ça ne m'appartient pas. Puis peut-être Jean-Luc va avoir un retour à faire sur pourquoi il sent le besoin, exemple, ça serait dénigrer quelqu'un, c'est pas le cas, là. Mais mettons, pourquoi qu'il arrive...
Non, je t'ai jamais rien dit. Hein.
Tu vas te sentir attaqué, là. Jean-Luc, tu t'es senti attaqué, là.
Mais en gros, c'est pas mal ça. Là. J'ai perdu un peu le fil, là, mais...
Non, c'est ça. Ça t'appartient pas quand tu reçois des choses, ça peut prendre du fil ou pas.
Ben, c'est ça. Le jour, je trouve que tu es capable de dire « ça m'appartient pas », puis quelqu'un là est en colère devant toi, puis tu es capable de dire « ça m'appartient pas », bon, il est peut-être en souffrance, cette personne-là, présentement, ben déjà, au niveau des émotions, tu vas maîtriser tes émotions, tu vas être beaucoup plus calme, puis la situation va s'arrêter immédiatement.
Je l'ai vécu il n'y a pas longtemps avec un client, puis j'ai resté très calme. Lui, il était vraiment en colère, puis tout le monde dans le magasin l'a regardé. C'est pas moi qui ai eu l'air folle, là.
Ouais.
Ça ne m'appartenait pas, c'était lui qui faisait une crise. Ouais.
Mais on se sent-tu bien dans une situation même quand on reste calme, puis qu'après ça, on réalise que la personne est comme démunie. Là, je dis, on ne se sent pas bien parce qu'elle est démunie, mais on se sent bien pour nous d'être resté calme.
D'avoir resté stoïque, là, puis d'avoir gardé le contrôle.
Ouais. De ne pas être rentré dans une situation, tu sais, dans le fond, qu'est-ce que je suis rendu? C'est quoi, là? Je suis rendu où? Là,
ça dégénère quand tu embarques dans ce genre de situation-là, de toute façon.
Ben, vous avez des enfants, les deux, sûrement.
Oui, non, pas grand-chose. Moi, oui.
J'ai pas trouvé le mode d'emploi.
Ouais. Tu sais comment est-ce que nos enfants, ils pèsent sur le piton pour déclencher, là. C'est pèser au bon endroit. Mais ça aussi, hein, quand que dans l'éducation de nos enfants, c'est pas toujours facile, mais en même temps, tu sais, regarde, ils sont là pour nous apprendre quelque chose.
Absolument.
Il y a Joseph qui dit que Joseph Abbott. Il dit, c'est le travail d'une vie, je crois, apprendre à gérer ses émotions, accepter les échecs.
Ah, entièrement d'accord. Vraiment. Je ne peux pas répondre à ce qu'il dit, Joseph. Tu as totalement raison. Tu auras beau écrire 10 000 livres, ça ne veut rien dire. Je veux dire,
c'est ça. Si tu ne les appliques pas, ça ne sert à rien.
Ah ouais, tu n'as pas besoin d'être. Regarde, n'importe qui, peu importe qui avance dans la vie, c'est un peu comme. Je dirais, tu sais, mettons, une personne qui est de plus en plus évoluée, c'est comme si elle avait une belle robe blanche, mais chaque tâche qui apparaît, une tâche apparaît encore plus. Tu sais, fait que si quelqu'un, exemple, sa robe est noire parce qu'il est constamment dans le négatif, puis tout ça, ben, chaque tâche de plus, ça apparaît pas trop, mais quelqu'un qui est de plus en plus pur, ben, ce qui va arriver, c'est ça, c'est que cette tâche-là, elle va ressortir encore plus, puis il peut pas s'en sortir sans être obligé d'aller nettoyer ça, puis faire le ménage là-dedans.
Dans croire en soi, ouais. Il y a quand même une statistique qui m'a un peu jeté par terre. C'est parce que
le 5%.
Tu dis qu'il y a seulement que 5% des gens qui réalisent leur rêve.
Ouais.
Puis c'est vraiment pas beaucoup. Je pensais qu'il y en avait quand même un peu plus. Et tu dis que l'échec est causé principalement c'est par le doute, l'abandon à la suite de difficultés rencontrées.
Oui, exactement. Non, c'est... Ben, tu sais, en plus, là, je sais pas si dans ce chapitre-là, je parle aussi comment est-ce qu'il y en a qui parlent de leur rêve, qui ne passent pas à l'action, puis finalement, c'est quelqu'un d'autre qui va réaliser ton propre rêve. Mm-hmm. Mais, tu sais, c'est facile de rêver à quelque chose, mais d'y croire vraiment, c'est autre chose. Tu sais, quand tu regardes n'importe qui a eu des belles réussites, la première chose qu'il y a, c'est l'amour de soi, ça, c'est sûr. Puis la deuxième, croire en soi. Si quelqu'un croit en lui, écoute, tu peux soulever des montagnes, tu peux réaliser beaucoup de choses. Le reste, ça te prend une méthode, ça te prend des outils pour y arriver, mais au moins, tu as l'essentiel. Combien de personnes qu'on dit des fois qui n'ont pas confiance en eux autres, mais c'est des grands athlètes, mais quand tu les écoutes, tu te rends compte, tu dis, T'sais, ils ont réalisé de quoi? Parce qu'ils ont eu une équipe pour les entourer, puis qu'ils ont toujours avec eux autres. C'est surprenant même qu'ils ont réussi à atteindre ça, mais ils ont été vraiment bien entourés. Ces gens-là qui les entouraient, c'est du monde qui avait vu ça aussi, qui avait vu des manques, puis qui réussissait à compléter. Mais le 5%, moi aussi, j'ai fait le saut quand j'avais fait des recherches là-dessus, puis j'étais agréablement surpris. Mais quand j'y pense aussi, tu sais, juste dans notre entourage, là, tu demandes au monde, c'est quoi tes rêves? Qu'est-ce que tu as de réalisé en ce moment?
Il n'y en a pas beaucoup.
Il y a beaucoup qui rêvent encore.
Oui, ils rêvent encore, puis ça s'arrête là. Là où ils ont cessé de rêver, c'est encore pire. Là.
Ouais. Tu sais, moi, je trouvais ça important pour mes enfants. Tu sais, on lui demande de rêver, mais toi, tu rêves-tu? Oui, mais tu réalises-tu tes rêves? On dit tout à nos enfants, réalise tes rêves dans la vie. Oui, mais toi, tu y montres-tu l'exemple? Est-ce que toi, tu réalises tes rêves? Si toi, tu réalises tes rêves, tes enfants te voient le faire. C'est quoi l'image qu'ils ont? Ils l'ont-tu, le modèle? Mais c'est ça. Sauf que combien de parents qui s'empêchent de réaliser des choses parce que, tu sais, pour X raisons. Mais des fois, là, c'est pas mauvais que tu sois peut-être un petit peu moins à la maison puis tu réalises des choses. L'impact que ça va avoir sur tes enfants, c'est énorme. Le modèle qu'ils ont. Puis après ça, quand tu vas lui dire « réalise tes rêves », là, ils vont voir qu'en face d'eux autres, il y a quelqu'un qui a réalisé des rêves, qui a réalisé certaines choses. Ça, ça n'a pas de prix, cette situation-là.
Mais c'est-tu parce que les rêves sont inatteignables? Parce qu'ils ont mis des trop grands rêves? Ouais, ou ça dépend, parce qu'il y a des ceux, ça peut être « j'ai envie d'avoir une Ferrari, mais ils savent qu'ils n'auront jamais la Ferrari ». Puis ouais, un autre, ça va être « ben moi, je veux voyager en Europe ». Qui est plus accessible que la Ferrari.
Mais tu sais, dans un moment donné, je parle des petits efforts, les effets cumulés, tout ça, mais ça m'a fait des objectifs. Il faut commencer avec des objectifs réalisables, atteignables, pas c'est trop ça. Gros. Puis là, qu'est-ce que tu fais? Tu construis une confiance, veux pas. Si, exemple, ton objectif, c'est d'arrêter de fumer, c'est déjà très gros, là. Mais quelqu'un qui réussit à atteindre ça, c'est un succès incroyable. C'est pas banal.
C'est vrai.
Avant d'acheter la Ferrari, peut-être que tu pourrais commencer par une voiture un peu plus, je sais pas, une Audi, mettons, qui est plus atteignable pour commencer. Puis après ça, ben, travailler pour justement aller te chercher ton rêve ultime, ça serait ça. Mais c'est d'y aller par étapes. Le problème, c'est que c'est un peu comme quelqu'un qui va aller aux Jeux Olympiques. Mais avant, il va devoir être champion provincial, champion canadien. Tu sais, tu peux pas arriver direct, tu pars de petit niveau régional, puis tu as une compétition internationale, puis ah ouais, je gagne pas, j'arrête tout. Fait que, tu sais, il y a des étapes à suivre. C'est la même chose des objectifs. Puis, c'est se construire aussi. C'est que si tu réussis des petits objectifs, tu les atteins. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que
veux pas. Tu vas viser plus haut.
Ouais, puis aussi, tu vas dire, je suis capable, je réussis. Moi, je vous donne un exemple. Souvent, j'ai atteint beaucoup d'objectifs que je me suis fixé pour une raison. C'est que j'ai été par étapes. Je donne l'exemple de livre. Le livre, moi, comment je l'ai composé? Je l'ai composé par chapitre. Puis, mettons, j'avais 22 chapitres, on va arrondir à 20. Mais quand j'avais 10 chapitres, c'était 50% du livre de fait. Fait que j'y allais tout le temps par pourcentage. Je dis, OK, j'ai tant de pourcents de compléter. Puis c'est motivant parce que j'avance. Au lieu de voir tout ça, de commencer des chapitres, pas y finir, puis aboutir. Fait que si dans ta vie, tu es capable de mettre ça par section, c'est beaucoup plus facile. Puis c'est dans tout.
Ça fait moins peur.
Ben exactement. Mais c'est surtout une question de réussite. Quand tu réussis, tu es prêt à aller de l'avant encore plus. Mais si tu t'envoies dans un gros projet, mettons, tu te prends une grosse entreprise, tu fais faillite. Hey, ça fait tellement mal que la personne, souvent, ne s'en remet pas de ça, fait une dépression, puis là, c'est long. Mais tu sais, pourquoi pas commencer plus petit? McDonald's, ils ont fait ça. Ils ont commencé avec des petites places. Puis, ils ont fait des franchises partout. Ils n'ont pas fait un gros McDonald's là, qui était immense. C'était tous des petits endroits. Puis, chaque place, après ça, c'était des franchises. C'est comme ça que c'est devenu très gros. Mais je ne sais pas si vous avez déjà vu le film. Là,
de... Oui, c'était vraiment bon.
C'était vraiment instructif.
Moi, j'ai trouvé ça. C'est un beau parcours.
Il y a Marie Sortin qui demande quand tu as écrit justement, est-ce que tu avais un plan littéraire?
Bien, ça dépend de ce qu'elle veut dire par plan, mais. Au départ,
est-ce que tu as découpé tes chapitres
avant
pour. Tu savais à peu près avant de commencer à écrire ton début, ton milieu, ta fin, tu savais à peu près ta ligne.
Mais quelque chose qui était spécial, c'est qu'on dirait que je faisais tout ça en même temps. tu sais, j'ai fait ma retraite, j'étais allé pour ça, j'étais allé à Hawaii aussi, puis à un moment donné, j'ai commencé à méditer un peu. Puis, tu sais, moi, méditer, m'arrêter, m'asseoir 5-10 minutes, je suis quelqu'un qui est toujours dans l'action. Fait que je trouvais ça difficile, mais quand j'ai commencé à prendre conscience de ça, puis souvent, pour les chapitres, c'était un peu, je dis pas c'est flyé, mais tu sais, je m'assoyais, je me fermais les yeux, puis je me disais, je vais me laisser aller, je vais avoir une réponse, qu'est-ce qui me manque dans mon livre? De quoi je pourrais parler qui serait intéressant? Puis des fois, j'avais des pop qui sortaient. Tu sais, il y a des chapitres qui sont sortis que j'aurais pas pensé. Comme le bilan de vie, ça m'est popé, là. Je veux dire, j'ai pas pensé à ça. Je veux dire, c'est venu tout seul. Fait qu'on dirait que... Puis je me mettais toujours dans un contexte, tu sais, une petite musique de relaxation, tout ça. Puis je me mettais dans un contexte, regarde, là, qu'est-ce que je pourrais amener d'autre? Puis à un moment donné, pouf, ça popait. Mais le plan, c'est sûr, c'était un chapitre à la fois. Quand j'avais une idée de chapitre, là, je ne pouvais pas engager un autre chapitre. C'était, je le finissais au complet. Puis quand j'avais plus de quoi à dire là-dessus, je passais au suivant. Puis c'était partout. Mais tu sais, je suis comme ça dans ma vie. Je suis intense tout le temps. Si je fais de quoi, je vais le faire à 100%. Je ne suis pas capable de faire.
Tu l'as fait sur une période de combien de temps, ton livre? Deux mois. Très bon.
Oui, exact. Mais tu sais, sauf que c'était 100% par jour. J'avais toujours ça dans la tête. Je m'en allais à quelque part, j'en allais juste marcher, j'arrête une table à pique-nique, puis hop, il me vient des idées, je commence à écrire, je peux écrire 3-4 pages là. Puis tu sais, pourtant, je me considère pas comme un écrivain, là, tu sais, puis quelqu'un qui écrit des pages, puis qui était super bon en français, puis tu sais, fait que c'est comme, je sais pas, on dirait que c'était quelque chose qui était allumé, puis il fallait que ça sorte. C'est carrément ça qui s'est passé. Puis...
Avant un message à livrer.
Oui, exactement, c'est ça.
Probablement. Moi, ça ressemble à ça.
Oui.
Puis tu dis aussi, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup fait pas sourire, mais réfléchir dans le thème de la communication. Tu dis dire ce que nous désirons et ce que nous désirons pas. Puis ouais. On est dans un milieu, on est quand même les réseaux sociaux et tout ça, on dirait qu'on communique tout le temps sans arrêt.
Oui.
Mais on dirait que d'un autre côté, on ne dit pas ce qu'on désire et ce qu'on ne désire pas. Ouais, est-ce exactement. Que tu as le même constat que moi?
Oui. Ben, tu sais, puis même, ça va plus loin. On dirait que depuis que, je ne sais pas, vous avez quel âge, Jean-Luc et Lolita, mais moi, quand j'ai eu 50 ans, on dirait que ça a fait que j'ai plus de temps à perdre. Tu sais, fait que c'est même en réunion du personnel à l'école, le directeur, il dit quelque chose, puis ça n'a pas d'allure. Tu m'imaginerais pas de dire non, c'est pas vrai ce que tu viens de dire. Là. Tu sais, puis pourquoi? Je sais pas. On dirait qu'il y a un besoin d'affirmation, puis un besoin d'être authentique, puis d'être vrai, puis tu sais, parler des vraies choses, puis pas de jouer une game, puis d'être
sincère. Parce que t'as plus de preuves à faire aux autres. Maintenant, c'est à toi que tu dois te prouver des choses.
Exact.
Fait que ces affaires-là, tu n'en as plus besoin. Tu le tasses. Jean-Luc va avoir 50 ans cette année, il va atteindre cette sagesse-là.
Lundi.
Mais comme dans la relation de couple aussi, tu sais, veux pas, là, c'est se mettre vulnérable, là. Tu sais, quand tu commences à dire ce que tu veux pas, puis ce que tu veux, tu sais, t'acceptes que tu te mets vulnérable, puis que l'autre peut jouer là-dessus, là.
Oui.
Et ta relation, elle va monter aussi, là.
C'est, oui, parce que tu joues franc.
Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, ça revient, je m'engage-tu ou je m'engage pas? Si tu t'engages pas, ben, tu vas aller moins loin, c'est sûr. Si tu t'engages, tu vas vivre des plus beaux moments. Par contre, tu viens de te mettre le cœur sur la table, puis ça se peut que ça vienne te jouer dedans de temps en temps. Ça fait partie du processus. Mais au bout du compte, c'est deux fois plus. Tu sais, tu vas atteindre des sommets beaucoup plus haut. Puis dans ma relation de couple, là, ça fait 22 ans que j'étais avec Caroline. Puis c'est le cas. Puis tu sais, même après 22 ans, on se découvre encore. Puis je trouve ça vraiment le fun.
Par la contre, confiance, c'est gratifiant.
Ouais, puis on nourrit la relation. Ça, c'est important. T'sais, on ne prend pas ça pour acquis. Puis, tu sais, je veux dire, c'est important. Hein. Comme on dit, on entretient le jardin. Oui,
tout à fait.
On a une mauvaise herbe, puis let's go.
Puis, il y a aussi le chapitre sur le détachement.
Ouais.
Qui est très, très instructif. Parce que tu dis que c'est dommage de constater que beaucoup de gens t'empêche de se réaliser par peur de déplaire et peut-être même de créer de l'insécurité chez l'autre.
Ouais.
C'est quand même, t'as un constat quand même flagrant, là.
Mais juste par rapport aux 5% des rêves, Jean-Luc, ça fait partie de ça, le détachement. Tu sais, il y a combien de femmes au foyer qui n'ont jamais réalisé leurs affaires pour ne pas déplaire leur mari, pour pas... pour qu'ils s'occupent des enfants, qu'ils soient considérés comme une bonne mère. Même aller suivre des cours le soir, laisser les enfants à la maison avec le chum une heure ou deux, il y en a qui ne sont pas capables, ils se sentent coupables. Mais tu sais, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas capables de se détacher, de se détacher de cette image-là. Pourtant, ça améliorait tellement leur relation de couple, leur relation de famille. Tu sais, moi, je parle en connaissance de cause. Ma blonde, elle est passionnée de vélo de montagne. Puis des fois, quand elle veut faire la part, une gang de filles vont faire un voyage, tu sais, c'est sûr que ça me chicote un peu. Des fois, je dis, hey, j'aimerais ça moi aussi, mais en même temps, c'est son activité, c'est ce qu'elle aime. Je vais en faire avec, mais peut-être pas d'une façon aussi intense. Elle peut pédaler pendant 6 heures de temps. Mais, tu sais, c'est... Puis d'être capable aussi d'accepter que l'autre n'a pas nécessairement les mêmes points en commun que nous. Ça, c'est
pas les mêmes rêves. Ça, c'est important de respecter les rêves de l'autre, là aussi. Là.
En couple, tu as deux choix. Soit que tu vis en parallèle, tu réalises tes rêves chacun de ton bord, tu n'as pas de projet ensemble, mais il faut que tu te rejoignes à quelque part. Mm. Si tu ne te rejoins pas, c'est voué à l'échec. Mm-hmm. Ou tu as des projets en parallèle, tu as des projets communs. Nous, dans notre cas, c'est ça. On a des projets parallèles et on a des projets communs. Mais l'important, c'est qu'on se rejoigne. Fait que, si je vais faire des activités de mon bord, puis elle en fait de son bord, ben le soir, on se rejoint. Puis veut pas. Ça fait des affaires qui la rend heureux, puis moi aussi, quand tu vas te rejoindre, ça va faire des flamèches.
Ça paraît, ça. Oui, c'est le fun.
Est-ce que tu es un homme qui est fréquemment dans la gratitude?
Bien, plus qu'avant. Je dirais plus qu'avant, je ne cacherais pas qu'au départ, j'étais quelqu'un qui avait quand même la critique facile. Tu sais, qui pouvait critiquer, puis... Avec le temps, je me rends compte que, tu sais, je suis chanceux, j'ai vraiment une vie remplie. Puis... Mais encore là, la retraite m'a aidé beaucoup. Le fait de me retirer, puis de ne pas parler, puis d'observer, puis de demander d'observer les écureuils, on observait tout ce qu'on pouvait checker. Puis, tu sais, à un moment donné, tu es rendu tellement que tu observes, puis à un moment donné, je vois un chevreuil, puis j'ai l'impression qu'il me regardait moi, tu sais, mais en réalité, il regardait n'importe où, là. Mais... Tu sais, tout ça pour dire que tu viens dans un état où que là, tu apprécies tout, mais pour ça, on dirait qu'il faut que tu fasses de quoi de comme un électrochoc un peu. Dans mon cas, ça a été ça. J'avais besoin d'un électrochoc qui fasse garde, là, stop le grand, là, arrête de pédaler à 100 000 à l'heure tout le temps. Prends le temps des fois d'observer, aussi simple que ça, on marche, puis d'arrêter de voir des oiseaux. Puis tu sais, je ne suis pas un ornithologue, là. Mais tu sais, de prendre du temps pour justement, regarde, là, la vie tourne vite, tu fais plein de choses. Là. Tu peux-tu juste des fois te contenter de...
D'être là.
Ouais, c'est ça. Ouais. Mm. Puis tu sais, ça te fait pas moins homme pour ça, parce que là, tu regardes les oiseaux, puis tu comprends, il y a beaucoup de des fois, les préjugés, tout ça, tu sais, il faut être capable de passer au travers de ça, puis de... Dans le fond, tu le fais pourquoi? Pour toi. Puis tu te rends compte, moi, mes enfants... Quand j'ai eu mes enfants, c'est là que j'ai compris mes parents ce qu'ils avaient fait pour moi. Vraiment, là, ça a été aussi une réalisation. Là. Toutes les nuits que j'ai passé une nuit blanche avec mes enfants, j'ai réalisé que mes parents avaient déjà fait ça pour moi. Puis, tu sais, des fois, ça te prend des situations pour te faire comprendre. Dans mon cas.
Pour te remettre en perspective.
Ouais. Puis, des fois, pour te faire comprendre que, garde, la vie, c'est ça. C'est précieux, mais en même temps, il faut que tu apprécies aussi. Puis quand tu apprécies, c'est drôle, il arrive plus de belles choses.
C'est vrai.
Il y a Julie Lamar qui te demande, as-tu tendance à revenir à ton rythme de 10 000 à l'heure ou à ton rythme qui est bien ancré?
Ben, je te dirais un peu des deux, parce que, tu sais, on est humain, puis aussi la vie, le travail, des fois, je n'ai pas le choix d'être à 100 000 à l'heure. Tu sais, je ne peux pas être juste mollo, mais en même temps, je reste ancré, dans le sens que je suis conscient que si je suis toujours à 100 000 à l'heure, ben, il y a quelque chose qui va m'attendre au bout qui ne sera peut-être pas agréable. Et tu sais, des fois, les maladies, peu importe, les blessures, ça n'arrive pas pour rien. Souvent, c'est pour te faire donner un petit break et te faire prendre conscience que, gars, le grand, là, tu t'en vas dans un mur, là, prends une pause puis observe un peu. Fait que c'est un peu ça. Des fois, tu n'as pas le choix parce que la vie va vite avec les enfants. Faut, quand ils étaient jeunes, là, aller à l'école puis te le quitter, j'ai t'avais pas le temps là, de tout le temps virer coin rond pour les amener à l'école, puis tout ça, mais c'est ça, pour répondre à sa question, un peu des deux.
Puis dedans, dans le livre, il y a le fameux test de l'ascenseur.
Ah ouais. Et ça, là, si vous avez une chance de le faire, je vous le dis, là, malaise. La plupart du monde sont malaise. Puis,
si est-ce que tu peux nous l'expliquer, le test de l'ascenseur? Oui. Moi, j'ai lu ça, puis j'ai dit, hey, je vais l'essayer une fois. Là.
Et puis faites-le, des fois, si vous êtes aux États-Unis, c'est encore pire. Ça, c'est que tu rentres dans un ascenseur, puis tu te mets dos aux portes, puis tu regardes les gens dans les yeux, puis tu les fais un sourire chacun. La plupart vont baisser les yeux. C'est instinctif, là. Ceux qui vont te faire un sourire, souvent, c'est ceux qui sont, je sais pas, sont gratitude, sont relax, puis, tu sais, on dirait qu'ils te renvoient ce que tu envoies. Mais il y en a beaucoup qui vont baisser les yeux, ils vont dire, il est bizarre, lui.
Qu'est-ce qu'il veut?
Non, il dit, il est bizarre, lui, il me fait un sourire. Il est-tu
normal? Il parle
comme si faire un sourire à quelqu'un, c'était quelque chose de
dangereux. Contagieux, de dangereux.
Ouais. Mais ça prend quand même du gars de faire ça, je vous le cache pas. Mais hein? Tu rentres dos à la porte, puis là, je suis face à tout le monde, puis je lui fais un beau sourire, puis je regarde. Ça prend quand même un certain cran, là, pour faire ça. Mais tu essaieras ça, Jean-Luc, tu m'en reparleras.
Ouais, j'ai essayé ça.
Ben, regarde, moi, je vais essayer. Au salon du livre de Gatineau.
Ouais, ben, regarde, moi, je souris à tout le monde au salon du livre de Gatineau.
Ouais.
Je vais sourire à tout le monde. Puis, il y a un passage qui, tu l'as dit tantôt, mais tu as une forte admiration, on va dire, pour les gens qui sont authentiques et vrais.
Ah, ouais, ouais.
Est-ce que tu dis, même si avec eux, il n'y a pas de demi-mesure, tu sais directement ce qu'ils pensent, ouais. Puis tu es sûr que c'est pas, qu'il n'y a pas de mauvaise surprise ou des changements soudains.
Ouais, exact.
Toi, tu aimes vraiment les gens qui sont authentiques, transparents.
Ouais. Non, vraiment.
On les prend tel quel.
Ouais. Non, mais vraiment, là. Puis, tu sais, Marc Gervais, c'est probablement pour ça que ça a fité avec, parce que, tu sais, j'avais entendu plein de commentaires, ce gars-là, comme quoi que. Mais non, ce que j'aime, c'est ça, c'est que c'est quelqu'un qui est authentique. Puis, tu sais, je te donne un exemple. Dans une conférence, à un moment donné, il dit, quand tu fais la file, puis tu baisses ton chandail pour cacher ton gros cul, ben, il dit, va t'entraîner si tu l'aimes pas. Hey, il y en a qui. Il y en a qui se levaient debout et qui quittaient la salle. Mais quand tu écoutes le message qu'il donne, c'est quoi? C'est accepte-le.
Ouais.
Accepte comment tu es fait. Sinon, ben, change ta physiologie. C'est
ben,
tout.
C'est tout.
T'sais? Mais il y en a qui le prennent. C'est sûr que c'est provoquant un peu. Mais par contre, moi, ce que je trouvais, c'est que t'sais, moi, ça me fait rire parce que t'sais, je me disais, c'est tellement vrai. Mais en même temps, c'est un message qu'il fait. Il ne rit pas des gros. C'est pas le cas.
Pas du tout.
Mais il y en a qui le prenaient comme ça.
Ils prenaient au premier degré au lieu d'aller au deuxième degré, là, tout simplement. Ouais.
Mais j'ai toujours j'ai toujours aimé ça, puis je me suis toujours bien entendu. Puis tu sais, moi, c'est ce que je veux aussi être comme personne, c'est d'être authentique. Puis ma blonde, elle va me dire, tu sais, je dis les vraies choses. Tu sais, si j'ai de quoi à dire, je vais le dire, mais je vais essayer de le dire d'une façon harmonieuse, que ce soit avec n'importe qui. Mais je donne un exemple, j'étais dans une auberge il y a peut-être 2 semaines, puis c'était super, mais l'eau du spa était verte.
Oups!
Là, j'ai dit, écoute, c'est plus fort que moi. Il fallait que j'aille voir le gérant, puis j'ai le propriétaire. Puis j'ai dit, écoute, c'est une super de belle place, mais je trouve ça dommage parce que tu vas te faire baisser ses réseaux sociaux à cause de la couleur de ton eau. Il dit, ouais, je sais. Il dit, il y a un peu de soufre dedans. Puis lequel, tu vois, mais il faut quand même que tu changes ça. Tu sais, c'est une affaire à 4-5 étoiles, ton auberge, mais ça, c'est comme inacceptable parce que, tu sais, dans le fond, c'est vert, c'est repoussant de rentrer là-dedans. Hein. Mais tu sais, pourtant, je suis allé voir, j'ai dit, il aurait pu dire, tu gars, je me fous de tes commentaires, mais je dis, gars, je voulais quand même lui dire ce que j'en pense. Puis j'ai dit, par exemple, avant, que j'appréciais beaucoup, que j'avais tout aimé. Là. C'est sûr, j'ai parlé du positif avant de parler de quelque chose de négatif. Mais c'est ça, je trouve ça important. Puis quand tu es authentique, ben c'est drôle, hein? Tu attires ce monde-là aussi. Puis d'avoir du monde vrai, c'est tellement le fun. Je dis, tu sais, tu n'as pas de surprise, tu n'as pas mal de surprise. Dans les arts martiaux, c'est beaucoup ça aussi. Tu rencontres du monde vrai, c'est ça que j'aime. Puis dans mon équipe, j'ai une équipe de 7 instructeurs avec moi. Puis, tu sais, je dis souvent, c'est pas une joke, je le dis à ma blonde, je gagne 60 millions demain matin et je lui donne tout un million, toute la gang. C'est des gens depuis des années qui me suivent, puis tu sais, qui donnent des cours. Puis, tu sais, c'est des gens qui sont vrais, là, qui sont là pour les bonnes raisons. Puis je trouve ça tellement le fun de voir ça aller. Mais en même temps, je me suis construit une équipe autour de moi. J'ai attiré ces gens-là. Puis, tu sais, les parents, tout le monde le dit, on a une super de bonne équipe. Puis, j'ai vraiment choisi de faire ça en équipe. Puis, j'en suis très content. Je ne serais pas là à soir si je n'avais pas une bonne équipe parce que c'est eux autres donnent les cours à soir.
Il y a Julie Lamar qui demande le test de l'ascenseur. Est-ce qu'on aurait une réponse différente si c'est un gars ou une femme?
Ah, ça, c'est une bonne question. Ça, je te dirais, Julie, essaye-le, tu m'en reparleras. Mais c'est ça, tu sais. Je ne sais pas comment qu'un gars, mais c'est tellement surprenant que, tu sais, je fais juste imaginer, moi, je suis sur le bord, puis il y a une fille qui rentre, puis elle me fait un beau sourire comme ça. Je ne sais pas les pensées qui me viendraient, mais je serais porté juste à sourire dans mon cas, moi. Mais, tu sais, est-ce que quelqu'un pourrait le prendre d'une façon différente? Mais c'est ça surprend. Je te dirais, l'effet surprise est là. Tu t'attends pas à ça, que quelqu'un rentre, servir, tu sais, qu'il soit face à toi, puis qu'il fasse ça, là. C'est, non, c'est ça. Je dirais, c'est surprenant.
Ouais, puis ça peut créer des fois un malaise, tout dépend de l'endroit où ce qu'on est et tout ça.
Un petit malaise.
Ouais.
Ben, il y a des endroits où tu souris,
C'est sûr que si t'es tout seul avec, c'est peut-être pas la meilleure façon.
Non, c'est peut-être pas la meilleure façon.
Moi, je suis une fille, puis si t'es tout seul avec un gars dans l'ascenseur, je ferais peut-être pas ça. Mais tu sais, il y a plusieurs personnes, là, ça vaudrait la peine d'essayer.
Est-ce que, Christian, tu donnes des conférences? Est-ce que c'est prochainement
ma conférence est toute montée. Je l'ai montée pendant la pandémie. Là, c'est juste que j'enseigne à 100% à l'école. Plus j'ai des cours les soirs puis le samedi matin. Par contre, je suis disponible, pareil, pour donner des conférences sur, justement, vous méritez ce qu'est la meilleure de la vie. Je vais en donner plus éventuellement, parce que je vais être plus disponible. Dans 4 ans à peu près, là, je vais avoir le domaine de l'enseignement va être terminé pour ça. Mais je suis quand même disponible. C'est juste qu'il faut que je le sache d'avance parce que j'ai un horaire quand même assez chargé. Mais la conférence est très dynamique. C'est beaucoup sur ce que tu veux dans la vie, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour l'avoir. Puis concrètement, c'est sûr que c'est aussi une conférence axée sur l'action. C'est d'être dans l'action, dans la vie. Puis, tu sais, si tu veux obtenir de quoi, tu n'as pas le choix. Il faut que tu mettes l'épaule à la roue, puis tu arrêtes de parler, puis tu passes à l'action.
Tu te repousses les manches.
Oui, exactement. Puis, tu sais, pour certains, ça peut en réveiller quelques-uns. Puis, c'est un peu ça l'objectif aussi. Là.
Il y a Marie Fortin qui revient sur le test de l'ascenseur et elle dit c'est comme quand tu remercies une compagnie pour le service à la clientèle et qui s'attend à des critiques négatives tout le temps.
Oui, exact. Non, c'est bon, c'est un bon point.
C'est vrai.
Julie qui dit « Le monde est tellement sur leur garde que je pense que si un homme regarde une femme, elle pourrait se sentir en danger, même si c'est purement anodin, tandis qu'une femme qui sourit à un homme, il pourrait croire qu'elle s'intéresse à lui. C'est peut-être un préjugé, mais c'est ce que je crois, théorie à vérifier. »
Ouais. Ben moi, je dois dire, Julie, ça dépend de l'homme et de sa situation. Dans mon cas, moi, si tu me ferais un beau sourire, ben, tu sais, je le prendrais vraiment comme un beau sourire, non pas un geste que, tu sais, elle s'intéresse à moi, là. Mais c'est sûr, il y a toujours le contexte. Le contexte est bien important, là. Tu sais, j'étais tout seul avec quelqu'un dans l'ascenseur, là ça pourrait être délicat, mais dans une formule de groupe, là, ça serait à vérifier. Mais c'est surtout le fait de... C'est ce qui marque un peu, c'est le fait de... Ça surprend, c'est vraiment ça. Ça surprend. Le monde ne s'attend pas à ça. Tout le monde s'attend que tu te vires de dos puis tu regardes vers la porte. Puis souvent,
je t'arrête de sortir.
Ouais, cellulaire. Puis tu sais, quelqu'un qui... moi, j'avais déjà vu un moment donné un gars qui donnait la main aux autres dans les autobus avant de rentrer dans les autobus de ville.
Ouais.
Je l'avais trouvé un peu flyé, mais après ça, quand je l'avais vu faire, crime, c'était vraiment avec une bonne intention.
Oui.
Puis je l'avais trouvé, tu sais, l'adolescent, je l'avais trouvé évolué. C'est le terme qui m'était venu. Je disais, aïe, il fait ça de bon cœur, il souhaite une bonne journée aux gens. Mais tu sais, quelqu'un aurait pu dire, qu'est-ce que tu veux, lui? Tu sais, veux-tu de l'argent? Mais c'est ça. Julie a raison là-dessus. Tu sais, il y a souvent des préjugés. Tu sais, pourquoi il y a des pensées comme ça? Tu sais, qu'est-ce qu'il veut, lui? Au lieu de dire, regarde, il veut juste te souhaiter une belle journée. Tu sais, c'est.
Sans mauvaise intention.
Ouais, exactement. La conduite automobile aussi, on le voit beaucoup. Là, le monde ne donne pas de chance. Là.
C'est non.
Coupé, puis, des fois, tu coupes quelqu'un sans faire par exprès, puis la personne te fait des fingers, puis elle est enragée après tout. Crème, peut-être pas fait par exprès. C'est comme ça. C'est pas évident.
Puis, tu parles aussi dans le livre du lâcher prise. Il y a plein de chapitres comme ça qu'on peut ouvrir, et tu as raison quand tu as dit on n'a pas besoin de lire dans l'ordre. On peut le lire complètement dans le désordre. On prend, si c'est le lâcher prise qu'aujourd'hui ça nous intéresse, on va directement au chapitre 14, puis là on le lit. Si demain c'est la communication, on va à la communication. On peut l'ouvrir un peu comme on veut ton livre. Ben, c'est comme un geek là, pour.
Ouais, ben, moi, je ne crois pas au hasard. J'ai toujours cru que ce qui nous arrive ou ce qu'on fait dans la vie, ça a un but. Puis les chapitres, c'est la même affaire. Si je rouvre un chapitre, probablement ce chapitre-là m'interpelle cette journée-là. Au même titre que des cartes de Dorine Virtue, là, les fameuses cartes là, que si tu poses une question, tu lèves ça puis tu réponds. Des fois, c'est surprenant.
Ben, j'écris des livres, moi, avec des petites pensées dedans. Puis quand les gens m'achètent plusieurs livres, souvent, je les en offre un cadeau. Puis beaucoup me disent, écoute, le matin, je l'ouvre pour commencer ma journée. Puis souvent, j'avais besoin de cette phrase-là pour commencer ma journée.
Non, moi, là-dessus, là, je suis 200% d'accord avec toi. Je ne crois pas au hasard. Puis toutes les rencontres qu'on fait, tu sais, c'est sûr, je ne fais pas diesel non plus avec ça, là, mais toutes les rencontres, les situations qui arrivent, même juste, c'est niaiseux, là, mais juste être dehors, puis tu vois quelque chose de spécial, là, un paquet d'hirondelles qui s'en va vers un arbre, puis qui remonte. Tu sais, des situations inhabituelles, là. Et bon, et des fois, il faut être conscient que, regarde, il y a peut-être quelque chose, là.
Ben, moi, je crois que rien n'arrive pour rien dans la vie et que les gens que l'on croit sur notre route, ils servent à quelque chose.
Ouais,
exactement. Ouais. Tu sais, ça revient à gratitude aussi, là.
Oui, il y a Annabelle qui dit « C'est un livre à relire de temps en temps et un beau cadeau pour toute personne qui a besoin d'opérer un changement de vie. »
Oui. Ben, en fait, quand j'ai fait le lancement, ça n'a pas été long. J'avais déjà vendu des livres là, à du monde que je connaissais. Puis au lancement, il y avait déjà deux personnes. C'est plate. C'est plate. C'est le fun, mais en même temps, c'était plate parce qu'ils ont quitté leur conjoint, les deux. Pourquoi? Parce qu'ils ont réalisé que, tu sais, qu'est-ce qu'ils voulaient dans la vie? Ça, le couple qu'il y avait présentement, ça lui
convenait pas.
Mais tu sais, ça lui prenait, puis c'était trop choc pour réaliser que, regarde, là, faudrait que tu te réveilles. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Qu'est-ce que tu es prêt à avoir? Mais tu sais, souvent, le monde, ils savent pas ce qu'ils veulent. Tu sais, tu demandes à quelqu'un, qu'est-ce que tu veux? Puis il sera pas capable de te répondre.
T'as des gens qui se questionnent pas parce que, ils ont arrêté de rêver.
Ouais, exact.
C'est triste.
Ouais. Puis pourtant, les rêves, ça peut être des petits rêves qui vont te rendre heureux. Tu n'as pas besoin d'avoir la totale. Tu peux avoir plein de petites choses qui te rendent heureux dans la vie. Mais souvent, le monde, quand il pense rêve, c'est quelque chose d'avoir quelque chose
d'accessible.
Oui, exactement.
Il y a pour terminer, mon cher Christian, parce qu'on est déjà bientôt l'heure de la fin, Lolita t'a préparé une petite surprise.
Je t'ai composé un petit mot, juste pour toi.
Ah, regarde, c'est gentil.
Je pense que tu vas trouver ça ressemble à ce que tu prônes. La volonté ne devrait jamais être un luxe, mais une priorité pour trouver l'équilibre dans une vie épanouie.
Wow. Bravo. Ben, d'accord.
Tu vas pouvoir l'utiliser comme tu veux, la phrase, elle te la donne.
Je l'ai écrit pour toi, je te la donne.
Ah, c'est gentil, je l'accepte avec grand plaisir. Merci, Lolita. Puis Jean-Luc, un gros merci en tout cas pour ton invitation.
Ben, d'abord, je vais te laisser le mot de la fin avant de booker l'entrevue.
Des événements ou des choses comme ça, parce que les gens peuvent te voir.
Mon cher Christian.
Ben, en fait, moi, mon mot, ça serait simple. Là. Si vous voulez atteindre quelque chose dans la vie, c'est pas compliqué. Si vous voulez réaliser vos objectifs, mettez-vous en action. La première chose, c'est se questionner. Qu'est-ce que vous voulez? Puis à partir de là, commencez à débouler un peu ce qui va arriver. Pour le reste, les conférences, regardez, j'ai mon adresse hotmail, c'est christian@alain_. C'est-à-dire christian_alain@commercialhotmail.com. Vous pouvez m'écrire à cette adresse-là. Puis pour le reste, regarde, j'ai très heureux d'avoir été ici partager avec vous là, ce que j'ai vécu dans cette belle expérience d'écrire mon premier livre. Peut-être un deuxième livre. Si j'ai quelque chose à dire, je vais écrire un deuxième livre. Puis je ne dis pas non, mais pour l'instant, là, je pense que j'avais encore des expériences à vivre avant de passer à un autre appel.
Prends-toi une tablette et un crayon, on ne sait jamais.
Oui, exactement. Un gros merci encore une fois.
Mais merci beaucoup,
merci mon cher. Merci à toi, c'était fun.
Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec Émilie Maurice pour la famille Kétosène. Donc, ça va être mardi le 27 février des 20h qu'on va se retrouver. Puis au mois de mars, vous allez voir, le rythme va un peu s'accélérer pour les Bélibo Rencontres parce qu'il y aura le Salon du livre de Québec.
Et plusieurs sorties qui s'en viennent.
Et plusieurs sorties qui s'en viennent. Donc, on va être là pour vous accompagner, pour que vous veniez au Salon du livre. Puis, n'oubliez pas qu'il y a le Salon du livre de l'Outaouais, donc à Gatineau, de jeudi le 22 février au 25 février. Donc, venez au kiosque 614. Moi, je serai là du jeudi au dimanche. Ouverture, fermeture. Il y a Ariane Arpin-Delorme avec Tenir Debout qui va être là. Il y a Andréane Désiel-Huppé qui va être là aussi. Stéphane Bayarjon qui va être là aussi. Et Marisol Michaud qui va être là, qui va être présente aussi. Donc, venez nous voir en grand nombre au kiosque 614. On va avoir du fun. Puis, quand vous achetez mon roman, vous allez avoir un petit cadeau en retour. Donc, je vais vous faire un petit cadeau. C'est dans le sac, là. Je pars demain matin. Donc, merci tout le monde.
Bonne soirée tout le monde.
On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Puis, venez au salon. On va vous accueillir. Puis, on va avoir bien du fun. Merci.
Bonne soirée. Bye-bye.
Bye-bye.
Merci, Lolita. À la prochaine, tout le monde.
Salut. Bye.
Merci.